Lizzie présente Furie divine de José Rodríguez dos Santos. Lu par Philippe Allard. Note de l'éditeur. L'édition originale du roman de José Rodríguez dos Santos, Furia Divina, est parue au Portugal en 2009. En 2009, Al-Qaïda était omniprésent, Ben Laden était toujours en vie et l'État islamique ne sévissait pas encore. En tant que reporter de guerre, J.R. dos Santos voulait écrire sur ce sujet alors même que le Portugal était l'un des pays occidentaux les plus préservés de la menace terroriste. Furia Divina rencontra un succès phénoménal et dès notre première rencontre, en 2009, J.R. dos Santos a souligné l'intérêt de ce titre pour les lecteurs français. Mais le sujet est dur. Le risque de polémique est grand et nous voulions d'abord que les lecteurs découvrent l'auteur et l'exigence de son travail. Qu'ils comprennent que le seul moteur des romans de dos Santos est la vérité. Quel que soit le thème abordé, c'est à elle qu'il aspire et son but est de la rendre accessible, compréhensible, même si elle dérange. Les attentats de Charlie Hebdo et la menace terroriste toujours plus forte nous ont amenés à reconsidérer l'idée de publier Furia Divina en France. Le besoin de comprendre est impérieux et l'on est désormais prêt à entendre une autre voix. Une voix neutre, surtout pas polémique, mais coupante car aiguisée par le fil de l'histoire et la rigueur de l'auteur. Pas de parti pris, pas d'idéologie, simplement une remise en perspective, des mots simples pour comprendre ce qui reste souvent flou. Un roman efficace pour plonger dans l'histoire de l'islam et de ses différents courants. Nous avons décidé de programmer Furie divine pour l'année 2016, avant les attentats de Paris en novembre 2015 et bien avant ceux de Bruxelles et Lahore en mars 2016. En travaillant sur le texte, qui a donc déjà 7 ans, nous nous sommes demandé s'il fallait le retravailler, l'actualiser. Retrouver Al-Qaïda et Ben Laden est d'abord déroutant, la menace a changé de nom. Mais lorsque l'on avance dans le roman, lorsque l'on apprend à connaître la pensée fondamentaliste, lorsque l'on décrypte le dessin final des djihadistes, lorsque l'on découvre combien J.R. dos Santos a été visionnaire, on ne veut surtout pas toucher au texte original. Une fois encore, José Rodríguez dos Santos nous ouvre les yeux et nous donne les clés, froides et dépassionnées, pour décrypter ce qui constitue désormais notre histoire. À tous les croyants qui aiment sans haïr. À Flor Bella, ma femme, et à Katharina et Inès, mes filles. Acquérir des armes pour défendre les musulmans est un devoir religieux. S'il est vrai que j'ai réellement acquis ces armes nucléaires, alors je rends grâce à Dieu. Et si je tente d'en acquérir, je ne fais rien d'autre qu'accomplir mon devoir. Ce serait un péché pour un musulman de ne pas tenter d'acquérir des armes pouvant empêcher les infidèles d'infliger des souffrances à d'autres musulmans. Oussama Ben Laden, Afghanistan, 1998. Avertissement. Toutes les références techniques et historiques ainsi que toutes les citations religieuses ici exposées sont authentiques. Ce roman a été révisé par l'un des tout premiers membres d'Al-Qaïda. Prologue. La lumière des phares déchira la nuit glaciale, bientôt suivie d'un vrombissement assourdi. Le camion remonta lentement Prospekt Lenina, puis marqua un temps d'arrêt lorsqu'il parvint en vue du portail. Le véhicule tourna lentement, gravit le raidillon avec peine et s'immobilisa devant les grilles dans un grincement de frein, le moteur sifflant d'épuisement. La sentinelle assoupie abandonna la guérite, enveloppée dans un lourd pardessus, la Kalachnikov en bandoulière et s'approcha du conducteur.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
demanda le soldat, mécontent d'avoir été tiré du confort de son abri et d'affronter le froid mordant de l'extérieur.
« Qu'est-ce que vous faites ici ?»«
On vient pour une livraison, »
dit le conducteur, son souffle laissant échapper par la fenêtre un nuage de vapeur. La sentinelle fronça les sourcils, intriguée.
« À cette heure-ci ? Tchert ! Il est presque 2 heures du matin !»
Le visage du chauffeur attira son attention. Il avait la peau basanée et des yeux noirs brillants, la physionomie typique d'un homme du Caucase.
« Montrez-moi les documents !»
Le chauffeur baissa la main droite et sortit un objet de l'ombre.
« Les voilà, » dit-il.
Le soldat eut à peine le temps de comprendre que l'homme du camion pointait sur lui le canon d'une arme munie d'un silencieux. Sans même un gémissement, la sentinelle s'affaissa comme un pantin désarticulé, son corps émettant le son étouffé d'un sac qui tombe par terre, un filet de sang coulant de sa nuque pour se répandre sur la neige boueuse.
« Maintenant !»
s'exclama le conducteur en regardant vers l'arrière. Suivant le plan préalablement établi, 4 hommes sautèrent du camion, tous vêtus de l'uniforme des soldats de l'armée russe sur lequel était cousu le numéro du régiment 3445. 2 d'entre eux hissèrent le corps de la sentinelle à l'arrière du camion, un autre nettoya la neige ensanglantée, tandis que le 4e disparaissait dans la guérite. Le portail s'ouvrit avec un bruissement électrique, le camion dépassa un panneau sale indiquant « P.O. Mayak » en caractère cyrillique et entra dans le site. Il s'agissait d'un complexe gigantesque, mais le chauffeur savait parfaitement où il allait. Il aperçut les bâtiments affectés à la recherche de Chelyabinsk 60, se gara le long du trottoir, prit son portable et composa le numéro.
« Allô ?»
répondit une voix au bout de la ligne.
« Colonel Priyakhin ?»«
Oui. » »«
Nous sommes à l'intérieur, à l'emplacement convenu. »«
Très bien, »
répondit la voix.
« Dirigez-vous vers le complexe chimique et procédez comme prévu. »
Le camion démarra et se dirigea vers ce qu'on appelait, par euphémisme, le complexe chimique. Le véhicule passa par la Zavuot 235 et s'approcha des installations de stockage. Un mur de ciment surmonté de fils de fer barbelés apparut sur la droite. La route débouchait sur un poste de garde. Le conducteur savait qu'il y en avait encore 2 à différents endroits le long du mur. Entre le poste et le portail, un vieux panneau rouillé indiquait « Rassiska hranilishche de la Chichiska Materialov ». Appliquant le plan qui avait été arrêté, le conducteur gara le camion dans un coin discret devant la cahute, arrêta le moteur et éteignit les phares. Il composa à nouveau le numéro sur son portable, laissa sonner 2 fois, coupa et attendit. Le portail automatique commença à se plier. Puis la porte de la cahute s'ouvrit, laissant passer un filet de lumière de l'intérieur et un homme en sortit. Le bonnet qu'il portait indiquait qu'il s'agissait d'un officier de l'armée. Le militaire regarda autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose, et le chauffeur fit un appel de phare. À ce signal, l'officier se dirigea aussitôt vers le camion d'un pas rapide.